Bonsoir Mathieu Laurent pour le journal.
Bonsoir Julie Gacon et bonsoir à tous. Justement Julie, nous ouvrons ce journal avec un article du projet de loi qui vous intéresse, un article adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le délit de solidarité, précision dans un instant de Sarah Maquet. Également au sommaire, un verbatim de l'entretien que vient de donner Emmanuel Macron à la chaîne américaine Fox News, les défis d'Andrea Nahles, première femme portée à la tête du Parti social-démocrate allemand, les derniers développements de la crise politique arménienne avec à Yerevan Régis Jeantet. Enfin, nous échangerons avec le psychiatre Serge Hefez, l'un des signataires d'un manifeste sur le nouvel antisémitisme. Moins de houle qu'hier à l'Assemblée nationale, lors de l'examen en première lecture du projet de loi Asile et Immigration, de là à faire sensiblement bouger les lignes, il y a un pas qui n'a pas été franchi. Moyennant quoi, quelques assouplissements aura contribué à alléger l'atmosphère. Il s'agit de l'adoption d'un article, comme je le disais, sur le délit de solidarité. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir.
Sarah, de quel assouplissement s'agit-il ?
Alors, il faut d'abord savoir que le délit de solidarité est une expression qui renvoie au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de 1945. L'article prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans pour toute personne qui aura, directement ou indirectement, facilité la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Mais en fait, il existe déjà des assouplissements au délit de solidarité, notamment depuis 2012. Aujourd'hui, si vous aidez un migrant, sans contrepartie directe ou indirecte, vous ne serez pas poursuivi si vous lui apportez conseil juridique, nourriture, hébergement ou soins médicaux. L'amendement voté ce matin ajoute à ces exceptions le droit à ne pas être poursuivi dans le cas où vous transporteriez des migrants. Exemple le plus connu, celui de Cédric Héroux, condamné en août à 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé 200 migrants à traverser la frontière italienne. Alors, est-ce que le nouvel amendement pourrait remettre en question la condamnation de l'agriculteur ? Eh bien non. En effet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé que le transport servait une cause militante et donc qu'il ne s'agissait pas d'une situation de détresse. Bref, entre les petites lignes du texte de 2012 et celles de l'amendement d'aujourd'hui, vous vous retrouvez finalement bien loin de ce que réclament les associations d'aide aux migrants, c'est-à-dire le retrait pur et simple de ce délit de solidarité.
Merci à vous, Sarah Maquet. Deux conflits et deux grèves en cours. Les cheminots de la SNCF et les personnels d'Air France sont appelés à cesser le travail demain et après-demain. Les perturbations prévues sont proches des épisodes précédents et aucun fléchissement gouvernemental en vue. C'est le président français qui vient de le déclarer sur le plateau de la chaîne de télévision américaine Fox News. Aucune chance de faire machine arrière, a martelé Emmanuel Macron. Bonsoir Marco Volter.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de New York. Vous avez bien sûr suivi cet entretien télévisé. Le chef de l'État, Marco, a produit quelques commentaires significatifs, cette fois sur les enjeux internationaux.
Tout à fait. Le président français n'a pas voulu commenter les controverses comme l'affaire russe ou le comportement sulfureux et polémique de Donald Trump juste avant sa visite. Mais sur les questions d'ordre politique, Emmanuel Macron a eu des réponses très fermes. Par exemple, sur les tarifs douaniers que Donald Trump menace d'imposer sur le fer et l'aluminium. On ne fait pas de guerre commerciale avec ses alliés, a dit Emmanuel Macron. Si vous faites la guerre commerciale à tout le monde, ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'alliés. Sur les autres dossiers brûlants comme l'Iran, Emmanuel Macron a redit que l'accord sur le nucléaire iranien est pour l'instant la meilleure option, là où Donald Trump veut davantage serrer la vis. Vous avez ensuite la Syrie, là où Donald Trump veut retirer les troupes américaines. Emmanuel Macron a appelé les États-Unis à continuer à jouer un rôle important dans la reconstruction du pays. Il n'a en revanche pas été question du changement climatique, gros point de discorde entre les deux hommes. Alors, on se demande finalement pourquoi en apparence ces deux-là s'entendent si bien. Emmanuel Macron a répondu, nous sommes tous les deux les non-conformistes du système. Nous ne faisons pas partie du système politique traditionnel.
Merci à vous, Marco Volter, en direct de New York. L'Europe et son incontournable axe franco-allemand, avec outre-Rhin, pour la première fois de son histoire, l'élection d'une femme à la tête du SPD, Andrea Nahles, confortablement élue cet après-midi. Bonsoir, Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
En direct de Berlin, Cyril, Andrea Nahles aura surtout la lourde tâche de reconstruire un parti social-démocrate très mal en point.
Oui, Andrea Nahles est peut-être la Trümmerfrau dont le SPD a besoin. Les Trümmerfrauen, c'était ces femmes allemandes qui, en 1945, ont déblayé les ruines de leur pays et entamé la reconstruction après le nazisme. Voilà la mission assignée à la première femme élue à la tête du SPD, panser les plaies et rebâtir un centre-gauche en pleine crise d'identité. Le Parti social-démocrate a subi en septembre dernier son pire revers électoral de l'après-guerre, avec la défaite cuisante de Martin Schulz face à Angela Merkel. Depuis, Le parti a accepté, du bout des lèvres, de rempiler pour 4 ans de plus en grande coalition avec la chancelière, mais le débat en interne a laissé des traces et les frondeurs n'ont pas l'intention de rentrer dans le rang. Il faudra donc toute l'énergie et le franc-parler de cette femme de 47 ans, venue de l'aile gauche du parti, pour relever le défi. L'ancienne ministre du Travail, qui a orchestré la mise en place du salaire minimum lors de la précédente législature, devra faire en sorte que le SPD fasse entendre sa différence tout en faisant partie du gouvernement. Objectif, incarner dans 4 ans une alternative crédible aux conservateurs de la CDU.
Merci à vous Cyril Sauvageau, en direct de Berlin. Le bilan des victimes de l'attentat suicide qui a été perpétré ce matin dans un centre électoral de Kaboul ne cesse de s'alourdir. Près de 60 morts et 120 blessés. Attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique. La crise politique en Arménie s'est aggravée ce dimanche. Des centaines d'arrestations dans la capitale, interpellation du leader de l'opposition, Nikol Pachinian, peu de temps, un glacial et bref échange avec Serge Sarkissian, ex-président et actuel Premier ministre. Le cœur du problème, c'est précisément cette concentration du pouvoir, confiscation du pouvoir, selon l'opposition. Régis Jantet nous appelle d'Yerevan.
Bien que député, Nikol Pachinian a été arrêté ce dimanche, mais le mouvement qu'il mène depuis 10 jours n'a pas faibli pour autant. Et ce, malgré les centaines d'autres arrestations de simples citoyens auxquels la police a procédé dans la foulée. Certains ont été jusqu'à s'enchaîner à même l'asphalte des rues d'Erevan, la capitale de l'Arménie, pour mieux en paralyser l'activité. D'autres se sont réunis devant le commissariat où M. Pachinian et d'autres représentants du peuple seraient détenus. Il n'est pas à exclure que ces arrestations finissent par drainer encore plus de monde dans les rues. M. Sarkissian avait promis qu'il ne briguerait pas le poste de Premier ministre, aujourd'hui le cœur du pouvoir, après la réforme constitutionnelle qu'il a fait adopter en 2015 dans des conditions douteuses. Mais il nous a menti, estiment de nombreux Arméniens, dont les conditions de vie demeurent déplorables dans un pays miné par la corruption et l'absence de projet politique. Pour l'heure, la violence n'a pas éclaté, ce serait très risqué politiquement. Serge Sarkissian avait été élu pour la première fois président de la République en 2008 sur fond de manifestations pour dénoncer les fraudes électorales. La répression avait conduit à la mort de 10 personnes.
Cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, plusieurs violentes explosions entendues ce dimanche à Tombouctou, dans le nord du Mali, non loin de bases de casques bleus et de militaires français qui ont été attaqués le week-end dernier. Pas d'autres précisions à l'heure qu'il est. 18h et presque 8 minutes, vous écoutez le journal de France Culture. Manifeste contre le nouvel antisémitisme, c'est le titre d'un texte publié aujourd'hui par nos confrères du quotidien Le Parisien. Son auteur s'appelle Philippe Val. Ce manifeste est un concentré en somme d'un livre à paraître chez Albin Michel, que l'on doit à 15 auteurs, livre pour dénoncer le poison de l'antisémitisme. Près de 300 personnalités ont signé le manifeste dont je viens de parler, dont vous, Serge Effès, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre. Serge Effès, d'abord quelques expressions qui posent question à la lecture de ce manifeste. La France vit un paradoxe tragique, la terreur se répand. Nous aurions affaire à une épuration ethnique à bas bruit. Comment avez-vous apprécié ces expressions ?
Écoutez, je les trouve un petit peu alarmistes, bien évidemment. Le terme d'épuration ethnique est un terme quand même très particulier, mais tout de même, j'ai tout de même décidé de signer ce manifeste parce que ce dont il fait état est juste. C'est-à-dire que derrière l'aspect un peu tragique de ces termes, il y a quelque chose qui est en train de se jouer de plus en plus dans notre pays autour d'un antisémitisme qui se banalise, un antisémitisme qui devient ordinaire, qui infiltre de plus en plus le tissu social, qui touche de plus en plus la jeunesse comme étant quelque chose, encore une fois, d'extrêmement banal. J'entends de plus en plus de témoignages qui vont dans ce sens-là. Moi, je me méfie toujours un petit peu des positions binaires, vous savez, où les victimes deviennent des bourreaux, les bourreaux des victimes. C'est toujours un peu compliqué de parler d'antisémitisme. Mais malgré tout ça, j'ai quand même pris la décision de signer ce texte pour alerter l'opinion sur quelque chose que on ne veut pas voir, pour différentes raisons.
Mais pourquoi avoir emprunté, ce sont mes termes, hein, au registre paroxystique, émotionnel ?
Eh bien, peut-être pour provoquer un électrochoc, justement. C'est-à-dire parce que sinon, on n'en tient pas compte. Sinon, on fait comme si ça n'existait pas. Le déni est très facile à mettre en place par rapport aux questions d'antisémitisme, qui, encore une fois, sont très lourdes sur ce qu'elles impliquent, hein, comme autour des appartenances communautaires, autour de ce qui se joue sur le plan géopolitique dans le monde. Donc, je crois que si on n'en parle pas de façon un peu forte, comme ça a été fait dans ce manifeste, eh bien, à ce moment-là, personne ne veut le voir.
La garde des Sceaux, Serge Effèze, Nicole Belloubet, était à la mi-journée l'invité de confrères de France Inter. Je vous propose de l'écouter poser son regard sur le manifeste que vous avez signé. On va devoir attendre, on me fait signe qu'il va falloir attendre. En gros, Nicole Belloubet dit oui, c'est la manifestation, je vais prendre ces termes, d'une inquiétude. Il faut aller vers un peu plus de cohésion. D'où ma question que je comptais vous poser après avoir écouté la garde des Sceaux. À la lecture, une fois de plus, de votre manifeste, il n'y aurait pas un risque de communautarisation, de confessionnalisation? Parce que, de manière très claire, vous dites des élites françaises associent radicalisation islamiste et révolte sociale. Qui sont ces élites, d'ailleurs?
Écoutez, ça c'est ce débat qu'on connaît très très bien à l'heure actuelle et qui empêche justement d'avoir cette vision un petit peu plus sereine et un peu moins communautariste de cette question. C'est-à-dire que il y a autour de ce qui ramène la question de l'antisémitisme au conflit israélo-palestinien, par exemple, et qui empêche d'avoir une vision claire de cet antisémitisme tel qu'il se déroule en France, il y a quelque chose qui obscurcit le débat. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce manifeste, c'est justement qu'il est signé par des personnalités de tous bords, politiques, des personnalités de toutes religions, y compris par des imams eux-mêmes, et des imams qui eux-mêmes sont inquiets de cet antisémitisme, parce qu'ils savent que c'est une menace sur l'islam lui-même, et des imams qui eux-mêmes vivent sous protection policière parce que justement, ils ne tiennent pas des propos extrémistes. Donc c'est plutôt ce poison d'un côté, ce poison de l'islam qu'il s'agit de dénoncer, ce poison d'une vision, je dirais, un peu gauchiste, qui empêche de considérer cette question de l'antisémitisme à cause de la question.
Mais monsieur Effèze, vous faites l'équation, en gros, l'antisémitisme serait l'exclusivité d'un certain islam?
Ah, pas du tout, justement. Et c'est en ce sens que il s'agit de pouvoir l'aborder pour en trouver tous les déterminants. Et ces déterminants, ils sont extrêmement complexes. Vous avez un antisémitisme extrêmement banal dans les classes dont vous parlent les enseignants à l'heure actuelle, quelle que soit l'origine de leurs élèves, quelque chose qui tend à reconsidérer le personnage du juif comme un bouc émissaire. Et cela, on ne peut plus l'ignorer. Il y a des enfants juifs qui ne sont pas en sécurité dans les écoles auxquelles ils participent, et ça n'a rien à voir avec l'appartenance religieuse des autres élèves. Le juif comme bouc émissaire, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays à travers beaucoup d'époques et qui ne concerne pas que la question musulmane, bien évidemment. Et cela, justement, on tente de l'ignorer, on tente de ne pas le voir pour ne pas stigmatiser une autre partie de la population. Mais il faut sortir de cette dualité, comme ça, encore une fois, cette vision très binaire, très simpliste entre bourreau et victime. Il faut revenir à quelque chose qui soit de l'ordre d'une vraie éducation laïque, d'une vraie éducation à l'histoire des religions, enseigner la Shoah, mais aussi enseigner toutes les autres histoires religieuses pour montrer à quel point la réalité est beaucoup plus complexe.
Merci à vous, Serge Effèze. Et oui, probablement aussi repenser l'enseignement de l'histoire de l'antisémitisme. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le Mont-Saint-Michel, deux dernières informations avant de refermer ce journal, a rouvert ses portes à 14h après évacuation du site dans la matinée, après qu'un homme a proféré des menaces contre les forces de l'ordre. Malgré l'inspection de toutes les maisons du site, l'individu n'a pas été retrouvé. Demain, temps plus frais qu'aujourd'hui, averse orageuse passagère du sud-ouest au flanc est. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.